Et voici maintenant la radiographie du coronavirus à 8h55 sur France Culture. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous voulez revenir sur cette annonce aussi fracassante que contre-intuitive, les fumeurs seraient moins touchés par le Covid-19.
Et oui, c'est évidemment une hypothèse assez perturbante, hein, puisqu'on sait que le tabac, eh bien, c'est mauvais pour la santé en général et pour les poumons en particulier, et que dans quasiment toutes les maladies respiratoires, le tabagisme est un facteur aggravant. Alors que se passe-t-il avec le SARS-CoV-2 pour imaginer que ça puisse être l'inverse? Il y a deux choses distinctes dans le communiqué de presse produit par les équipes de Jean-Pierre Changeux, qui est neurobiologiste émérite à l'Institut Pasteur, que nous avons contacté. Il y a une observation et une hypothèse. L'observation pour commencer. Une étude de la Pitié-Salpêtrière menée sur 480 malades qui vient confirmer plusieurs autres constatations épidémiologiques qui montrent que les fumeurs sont sous-représentés dans les populations de malades du Covid-19 par rapport à leur proportion dans la population générale. Et ce, pas qu'un petit peu, hein, de façon criante, il n'y a qu'autour de 5% de personnes fumeuses atteintes dans la cohorte contre une moyenne nationale d'environ 30% de fumeurs, soit un taux jusqu'à 80% plus faible. Ça, c'est l'observation. L'hypothèse maintenant. Jean-Pierre Changeux précise bien qu'à ce stade, et c'est important, il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, qu'elle n'a pour l'heure pas été confirmée de façon expérimentale, et qu'il s'agissait pour ses équipes d'attirer l'attention sur cette option de recherche. L'hypothèse est la suivante. Le SARS-CoV-2 aurait un neurotropisme, c'est-à-dire une affinité avec les neurones, et que l'état hyper-inflammatoire se développerait via l'invasion du système nerveux central par le virus, à travers des globules blancs qui sont les macrophages. Ce sont ces macrophages qui contrôlent la libération des cytokines, qui produiraient, une fois infectés par le virus, la désormais célèbre tempête de cytokines, qui conduit au dérèglement inflammatoire et donc à des cas aigus et à la mort. Le mécanisme est donc le suivant. Pour déclencher cette réponse inflammatoire, les macrophages possèdent un récepteur pour un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Suivez bien, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant.
Mmh. Il s'avère que la nicotine... On suit, Nicolas. On prend des notes.
Il s'avère que la nicotine ressemble de très très près à l'acétylcholine. Du coup, chez les personnes fumeuses, les récepteurs à l'acétylcholine sont occupés par la nicotine et du coup, ils ne peuvent pas, ou moins en tout cas, être sollicités sur ces macrophages et donc déclencher la réponse inflammatoire. La nicotine remplace l'acétylcholine et donc, en la remplaçant, eh bien, elle empêche le début de cette fameuse tempête de cytokines. Hypothèse doublée par le fait que chez les fumeurs, à cause de la nicotine également, les portes d'entrée du virus au niveau pulmonaire, les récepteurs ACE2, sont moins exprimés du fait de la tabagie. Le virus peut de fait moins entrer dans l'épithélium pulmonaire et la maladie est donc freinée. Alors, en fait, quand on se penche un peu là-dessus, c'est effectivement un tableau extrêmement séduisant, mais encore une fois, il n'y a pas de preuve expérimentale. C'est vraiment une sorte d'intuition hein, de Jean-Pierre Changeux, une hypothèse qui est fondée sur une analogie.
Donc, toute séduisante qu'est cette hypothèse, il y a quand même de nombreux doutes encore à lever, Nicolas.
Et oui, et à tout point de vue, déjà sur la partie épidémiologique, il y a des biais qui apparaissent à de nombreux endroits sur la représentation des fumeurs. On sait que les personnes les plus atteintes et les plus fragiles face à la maladie sont les personnes les plus âgées et qui présentent d'importantes comorbidités. Or, on sait également que ces populations sont classiquement moins exposées au tabac que la population générale. À tel point que Santé publique France, d'ailleurs, ne recense même plus le taux de tabagisme chez les plus de 75 ans, qui sont par ailleurs les plus touchés par la maladie. Autre biais dans l'étude sur la cohorte de 480 patients dont je vous parlais. Tout le monde vient d'Île-de-France, or le nombre de fumeurs, ça peut être anecdotique, mais pas du tout, est l'un des plus faibles en Île-de-France par rapport au reste du pays. Et il y a également dans cette cohorte une surreprésentation du personnel soignant, pour des raisons pratiques hein, de tests sur place, qui est une autre catégorie de personnes où le tabac est vraisemblablement moins habituel. Ensuite, sur l'hypothèse, le postulat de départ est celui, comme je vous le disais, du neurotropisme du SARS-CoV-2. Or, j'en parlais mardi à ce micro, ce neurotropisme, pour l'heure, il est totalement hypothétique, il n'a pas été prouvé. Il se peut que les symptômes neurologiques qui sont constatés chez de nombreux patients qui sont confus à l'arrivée à l'hôpital soient pas le fait du virus, mais de l'inflammation et de l'infection provoquée par le virus. Trois essais vont donc être lancés avec des patchs nicotiniques en préventif pour le personnel soignant, en thérapeutique pour des patients hospitalisés et enfin pour des cas graves en réanimation. Mais attention, hein, nous a bien prévenu Jean-Pierre Changeux que cet emballement soudain ne pousse pas à tomber dans les mêmes pièges que les semaines précédentes avec une autre molécule. Pour l'heure, rien n'est prouvé. La nicotine peut être un poison pour les non-fumeurs. Le tabac reste un poison quoi qu'il arrive. Il tue aujourd'hui nettement plus que le Covid. Donc prudence, patience, sérénité. Le temps n'est plus à la surenchère médiatique, mais à l'expérimentation scientifique.
Bon, alors du coup, Nicolas Martin, vous avez abandonné tout espoir d'arrêter de fumer, quoi. C'est fini.
Ben, j'ai pensé m'y remettre et puis finalement, non.